Quand je pensais à ce que ce livre pourrait m'amener, je me suis dit, tiens, sûrement des belles discussions avec mon éditeur. Parce que c'est lui qui a choisi le texte, donc forcément, on devrait avoir des discussions sur tel ou tel choix, l'intention derrière une phrase, des choses comme ça. Je me suis dit, peut-être, s'il se rend jusque-là, des beaux échanges avec les lecteurs ou les lectrices. J'ai plus honte de le dire, mais jamais j'ai pensé aux libraires. Jamais. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi les gens qui m'ont mis à plus d'une reprise les larmes aux yeux, il y a souvent eu des libraires. Et voilà, je pense que quand j'écrirai le deuxième roman, je penserai un peu plus à eux.
Bonjour, je m'appelle René Cochot et j'ai la grande joie de vous accueillir à la librairie Cochot, cette émission littéraire qui vise à mettre de l'avant le travail essentiel des libraires et des librairies dans la chaîne du livre. Pendant 60 minutes, chaque épisode vous propose un voyage sonore riche et varié, des entrevues avec des libraires passionnés, des capsules d'archives qui témoignent de l'évolution du métier, des extraits musicaux qui évoquent l'univers des librairies et de la littérature, ainsi que des chroniques où des libraires du Québec et d'autres provinces canadiennes racontent, dans leurs mots, leur quotidien, leurs découvertes et leur amour pour le service à la clientèle. L'idée de produire ce balado est venue d'une entrevue que j'ai réalisée avec Éric Chacour pour mon autre émission littéraire, Le Cochocho. Vous avez d'ailleurs entendu une partie de cet entretien en ouverture d'émission, alors que l'auteur souligne que la popularité et le succès de son roman, « Ce que je sais de toi » publié chez Alto, est largement attribuable au travail des libraires. Pour ce premier chapitre de la librairie Cochot, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée mon oncle Jean-Marie, qui a possédé une librairie pendant 19 ans à Bruxelles, en Belgique. Un entretien avec François Kerney concernant son roman « La lenteur des ombres » publié chez Hurlante Éditrice, puisqu'une partie de l'intrigue se déroule dans une librairie. Et Léonie Boudreau, copropriétaire de la librairie Les Deux Sœurs à Sherbrooke, présente un album jeunesse qui se déroule dans une librairie. Eh oui, nous avons de la suite dans les idées. Je vous souhaite la bienvenue à la librairie Cochot.
Le papier journal a jauni, l'encre ne coule plus. Le libraire en sursis, les lecteurs ont disparu, fini les unes à scandale, les magazines de papier glacé, le rideau tombe sur le tabac, la loi a tout fait s'envoler. Il reste là, derrière sa vitre, dans son aquarium de métal, il scanne des étiquettes dans un silence de cathédrale. Ce n'est plus un marchand, c'est un gardien de secrets. Un passeur de carton empilé au sommet. Il regarde ses boîtes brunes, des noms mais pas de visage. Et il s'invente des voyages. Oh, qu'est-ce qui se cache sous le ruban adhésif? Un peu de rêve en plastique ou un désir impulsif. C'est le temple du point relais, la chapelle des colis. Est-ce un jouet pour adultes ou un gadget pour l'ennui? Du coquin, de l'inutile ou une promesse de bonheur? Le vendeur ne vend plus rien, il distribue des mystères à l'heure. Longue pour une dame, un petit cube pour un monsieur. Ils pèsent le poids de leur drame ou de leur caprice joyeux. Peut-être une robe pour un bal ou un aspirateur sans fil. Le monde entier passe par lui de façon anonyme et docile. Il ne donne plus l'opinion, il ne donne plus de quoi fumer. Il tend juste des morceaux d'ombre soigneusement emballés. Ouvrez, ouvrez, la curiosité le dévore. Sous le carton craft, y a-t-il un trésor? La ville est rangée dans son étagère grise ici. Un peu de rêve en plastique ou un désir impulsif. C'est le temple du point relais, la chapelle des colis. Est-ce un jouet pour adulte ou un gadget pour l'ennui? scannez le code, signez ici, emportez votre vie. Pop, le monde est dans un carton, et le marchand de journaux attend la prochaine livraison.
Je me demandais, pour inaugurer cette nouvelle émission littéraire, la librairie Cochot, quel libraire je pouvais recevoir comme premier invité, et j'ai eu un flash. Je me suis dit, pourquoi ne pas appeler oncle Jean-Marie, qui a eu le bonheur d'être libraire à Bruxelles. Et je l'ai en ligne, Jean-Marie Cochot, bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Marie, ça me fait grand plaisir de pouvoir jaser avec toi de cette expérience que tu as eue d'être libraire. J'aimerais que tu me parles un peu des circonstances, dans un premier temps, Jean-Marie, entourant le fait que tu as choisi de devenir libraire.
Ça fait une vocation que j'avais depuis très longtemps quand j'étais jeune. Et j'ai été surpris par... une librairie formidable à Knokke-le-Zoute, sur la plage chez nous. Et ça m'est resté. Et donc, cette vocation, je l'ai assumée un jour, en 1985, en ouvrant une librairie avec un budget extrêmement limité. Il y a plein de gens autour de moi qui disaient que j'étais fou. Hein, bon, enfin, ça... C'était un peu un acte de folie. Je suis tombé... Alors, près de la rue du Bailly, qui est près de l'avenue Louise, qui est très connue à Bruxelles, un endroit, deux pièces, hein, et j'avais un loyer absolument incroyable. Rien du tout, pour ainsi dire. Et ça, ça m'a permis de démarrer. J'y suis resté près de 11 ans. Donc, j'ai fait tout un bail, là, et j'ai pu créer ma clientèle avec les livres et un choix de livres. Parce que ça, c'est très important. Je n'ai pas pris... tout le stock possible des éditions de chaque année. On est noyé de bouquins. Et donc, j'ai fait un choix. Et j'avais des clients qui me disaient, mais comment est-ce que vous arrivez à choisir les livres? C'est important, évidemment. Alors, je leur ai dit, ça, c'est mon secret. C'est mon secret. Je suis né dans un milieu très cultivé et j'ai fait des études de sciences politiques, etc., etc. Donc, j'ai la capacité de filtrer les éditions et de prendre le meilleur. Et donc, vous avez en livre, dans ma vitrine, vous avez les 100 meilleurs bouquins du moment. Ah, c'était un argument sérieux, ça. Ils étaient très contents des livres que je leur donnais. Et donc, je me suis créé ma clientèle petit à petit. Ça a duré ce que ça a pu durer. C'était une librairie charmante, un peu à l'ancienne, à la parisienne, tu vois. Et j'ai eu des moments de bonheur forts. Mais je travaillais 70 heures par semaine, hein, c'est hallucinant, quoi. Et je pense, si je devais faire le calcul de la rentabilité, j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que j'ai mis mes propres fonds dans l'histoire pour subsister et résister. Et alors, c'est pas fini, parce que j'ai eu un rebond extraordinaire, puisque j'avais été libraire à Bruxelles. Molière, qui est une très grosse librairie à Charleroi, a demandé de venir jouer les mentors dans le rayon littérature à Charleroi. Alors j'ai fait la navette Bruxelles-Charleroi en train tous les jours, levé à 6h moins quart et rentré à 7h. Voilà. En gros, ça c'est mon expérience professionnelle, mais ça m'a permis de connaître les éditeurs, les auteurs, la fonction du libraire, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre un livre ?
Et Jean-Marie, le mot passion peut résumer le tout.
C'est ma passion, oui. Je reste passionné pour les livres, c'est clair. J'étais reconnu dans le métier, mais on se moquait un peu de moi parce que j'avais une surface de vente qui était tellement ridicule par rapport aux grands. Par contre, j'ai repris du travail, ou ça, chez celle qui m'avait aidé depuis le début, Brigitte de Méus, de la librairie Tropisme, que tu connais. Et Tropisme... Ça, c'est une librairie formidable. J'ai travaillé pour eux de toutes sortes de façons. J'ai tenu parfois des sections de la librairie. Depuis, j'ai travaillé pour eux, pour le compte de Gallimard dans les foires du livre, plusieurs fois. J'ai fait ça plusieurs fois. Et puis finalement, un jour, Brigitte m'a dit « Ah, Jean-Marie, qu'est-ce qu'on ferait sans toi ?» Non, c'est pas vrai, elle n'a pas dit ça. Mais, non, non. Mais est-ce que tu ne pourrais pas prendre ma fourgonnette, là, son break assez important qu'elle avait, et faire les livraisons dans Bruxelles. Et j'ai passé un temps formidable. J'ai fait six ans, en fait. Ça. Je partais avec une tonne de livres derrière moi et je courais dans tout Bruxelles, les bibliothèques publiques, les écoles, etc., etc. Et j'allais dans tout Bruxelles. Et j'ai appris à connaître une ville que j'adore, qui est Bruxelles, qui est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est mon parcours, tu vois. C'est un parcours, c'est le parcours du combattant, hein, quand même.
Bien, Jean-Marie, ça a été un plaisir de jaser avec toi, donc de ton expérience comme libraire, et ça a été très, très enrichissant de t'entendre.
C'est gentil, ça me fait plaisir de t'avoir entendu et de vous dire un peu ce que je pense de la librairie.
Coup d'œil sur le passé de libraire. Henri Tranquille, libraire de 1937 à 1975, a marqué le paysage culturel et politique québécois. En 1948, c'est dans sa librairie Tranquille, située rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal, que le manifeste Le refus global a été lancé. La librairie Tranquille a joué un rôle important pour la littérature québécoise et canadienne. Henri Tranquille a eu, entre autres, des relations privilégiées avec Anne Hébert, Hubert Aquin, Régent Ducharme, Claude Gauvreau et Yves Beauchemin. Il est décédé en 2005 après avoir visité le Salon du livre de Montréal. Voici un extrait d'une entrevue qu'il accordait à Radio-Canada.
Quand j'étais au collège, je passais devant une chocolaterie. Puis je voyais des chocolats, puis à cet âge-là, évidemment, comme tous les jeunes, on aime beaucoup. Et il y avait une librairie un peu plus loin, la librairie Ouvrard, sur la rue Ontario, près d'Amherst. Et c'est curieux, c'était toujours la librairie qui gagnait. Alors, je me privais de chocolat pour avoir encore un ou quelques autres livres. En somme, la lecture, c'est la conversation, selon moi, la plus importante qui existe. Et souvent, nous sommes en discussion avec l'auteur, ce qui est d'ailleurs merveilleux, c'est que l'auteur devient un petit peu notre animateur ou notre maître pour un Rabelais, mais il nous fait prendre conscience de certaines de nos idées ou de certaines de nos erreurs, parce que à l'occasion, nous sommes heurtés par ce que nous lisons, quelquefois bien heureusement. Souvent, le client, en principe, entre en ayant le goût d'acheter tel livre. Ça, très souvent, il va demander le dernier Tremblay. Ou justement celui-ci, le dernier Marie-Claire. Mais il arrivera de temps à autre que les gens disent « Si vous avez des suggestions, il faut toujours le faire. Pendant que je vais chercher. » Habituellement, mes suggestions sont écoutées. Mais je dois dire que je ne fais pas des suggestions au petit bonheur. Il faut que je sois vraiment convaincu que le livre est intéressant, et pas seulement pour moi, pour la personne en question, pour ça qu'à l'occasion, je lui demande « Qu'est-ce que vous avez le plus aimé si je ne connais pas assez ?» Ses goûts, parce qu'on peut connaître une personne sans connaître ses goûts, bon, en littérature. Alors, mais rendu là, il y a un déclic qui se fait. Si on me dit, par exemple, j'ai aimé tel ouvrage, là, je vois soit pittoresque ou un autre mot, qu'importe, je vois tout de suite d'autres titres qui lui ressemblent. Alors, je peux les suggérer en disant quelques mots et c'est presque toujours parfait. Oui.
Elle aime les rayons de soleil. Mais elle aime encore plus les rayons de sa librairie Les Deux Sœurs, Léonie Boudreau.
Une célébration des librairies locales anciennes et nouvelles par les créateurs de l'album Le Train de Noël, un livre-poème sur les souvenirs, les au revoir et ce qui reste quand tout change. C'est ce qu'on retrouve dans un magnifique album illustré dont va nous parler Léonie Boudreau de la librairie Les Deux Sœurs. Bonjour Léonie.
Allô René.
Cet album, il a pour titre « La librairie de l'allée des citronniers ». C'est de Mike Luca et de Sofia Carmazina. Bon, évidemment, avec un titre pareil, ça attire l'attention d'une libraire, mais il y a beaucoup plus que ça, j'imagine.
Oui, effectivement, mais c'est sûr que quand on m'a présenté ce livre-là, ben c'est sûr que là, j'avais un petit parti pris parce que ça se passe dans une librairie. Puis c'est un bel endroit pour qu'un livre se passe, je trouve. Et ici, ben, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, sa librairie de quartier à lui, c'est la librairie de l'Allée des Citronniers. Il va là depuis qu'il est tout petit. Il est habitué. Il a ses coins où il aime lire. Il sait que dans telle section, c'est ses livres préférés. Il connaît les libraires. Il y a le chien de la librairie qui est là. Il connaît le chien de la librairie. Donc, il est habitué à cette librairie-là. Et un jour, il arrive et dans la porte, c'est écrit « Fermé pour rénovation ». Et là, il a de la peine. Il se dit que tout va changer. C'était une habitude pour lui d'aller à la librairie avec son grand-papa. Et là, il demande à son grand-père, est-ce que là, tout va changer? Est-ce qu'on va encore avoir notre librairie? Qu'est-ce qui va se passer? T'sais? Puis là, il passe devant la librairie, puis c'est placardé parce que c'est en rénovation. Et là, ben, toute l'espèce d'angoisse liée au changement est super bien emmenée. C'est un livre qui est en poème, donc en vers, tout en rime aussi. Donc, tout en douceur, vraiment, plein de douceur. Et tous ces questionnements-là, toute son angoisse se prépare tout au long du livre. Et finalement, ben, il y a la réouverture de la librairie. Et il se rend compte que, ben, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on rénove qu'il n'y a plus l'âme d'un lieu. Donc, c'est ça qui est très beau avec cette histoire-là, c'est que, ben, au final, la librairie reste sa librairie. Le chien est encore là. Les libraires sont encore là. Les sections sont encore là. Puis les livres, ben, ils sont encore là. Donc, c'est vraiment beau. C'est une belle ode au changement, au fait que parfois, ben, c'est pour le mieux, le changement, parce que cette librairie-là, ben, quand il pleuvait, ça pleuvait dans la librairie. Fait qu'au final, ben, c'est pour le bien si cette librairie-là a été rénovée. Mais c'est sûr que le changement fait toujours peur. Mais c'est pour le mieux.
Et ben, parle-moi un peu des illustrations.
C'est des illustrations, je trouve, qui sont très « old school », entre guillemets. Ouais. Ça fait un petit peu... Robert Munch, on a le côté un peu de trait de crayon de couleur. On sent le dessin un petit peu enfantin. Il y a comme quelque chose de nostalgique avec un dessin comme ça, comme les albums des années 90 qu'on voyait d'ailleurs chez Dominique et compagnie, qu'on voyait chez La Courte Échelle. Donc, il y a comme ce, un peu ce dessin-là qui sert bien le propos, justement, que le dessin, il peut rester un peu vieillot tout en se modernisant. Ça donne envie de faire des rénovations. Nous, notre librairie, elle a juste 4 ans et des poussières. On se lancera pas dans des grosses rénovations, mais ça donne des idées, là. C'est vraiment une librairie qui a l'air plutôt chouette.
La librairie Les Deux Sœurs est très chouette également. L'album dont tu nous parlais, Léonie, cette semaine, c'est « La librairie de l'Allée des Citronniers » de Mike, Lucas et Sophia Carmazina chez Dominique et compagnie. Merci beaucoup.
Merci, René.
Vous écoutez l'émission littéraire La librairie Cochot.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face. Chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque.
Mon nom est Anthony Lacroix, je travaille à la librairie boutique Vénus à Rimouski.
La partie la plus gratifiante de mon travail, ben, c'est trouver le bon livre pour la bonne personne. Je pense que tout le monde va te dire un peu la même situation, donner le goût de la lecture ou raccrocher des gens à la lecture. Des fois, les journées sont un peu longues quand on manque de clients. Des fois, classer des livres, c'est pas nécessairement ce qui, ce qui me rend le plus joyeux, on va dire. Déplacer des boîtes. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est parler des livres que j'aime, que j'ai pas aimé, même débattre autour de livres, là, c'est vraiment l'aspect que je préfère. Avant, j'étais commis de bibliothèque à la ville pendant 3 ans, pendant la pandémie, entre autres, et ce qui me manquait beaucoup, c'est que à la bibliothèque, c'est un lieu qui est proche de la littérature encore, mais on parle pas des livres, beaucoup, à la bibliothèque. Du moins, moins qu'en librairie.
Daniel Pennac formule dans Comme un roman ce qui est peut-être sa phrase la plus forte et qui vaut pour chaque passage en librairie. Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même.
Coup d'œil sur le passé de libraire. 3 libraires spécialisés dans les documents d'occasion, Mathieu Bertrand, Francisco Uribe et Yann Vernet, se sont installés sur la rue Savoie à Montréal, du côté ouest de la Grande Bibliothèque, les vendredis, samedis et dimanches. Dans l'allée des bouquinistes, on y trouvait des documents rares et anciens, ainsi qu'une ambiance unique. Les bouquinistes occupent aujourd'hui un espace permanent dans le hall de la Grande Bibliothèque de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Voici un enregistrement d'archives à propos de l'Allée des bouquinistes, produit par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
L'Allée des bouquinistes, c'est de proposer des livres d'occasion, comme un fonds général, des livres de bonne qualité, pas trop récents. On peut trouver soit du livre ancien, des livres jeunesse, des fonds en sciences humaines, en histoire, en littérature, tout comme une librairie, mais en modèle réduit.
Non, on est pas mal généraliste. On a une gamme assez complète. On part du livre de poche jusqu'au livre ancien et en français, anglais, enfant, adulte. C'est pas mal général.
Moi, je trouve souvent des livres en langue, quelques-uns en français, en anglais. Mais beaucoup de livres en langue étrangère. Moi, j'accumule tous ces livres-là et des fois, je leur donne, des fois, je leur vends.
Au fil des ans, on doit se dire qu'on s'est fait une clientèle fidèle qui attend impatiemment le début de la saison et jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est souvent à la fin de la saison où on fait des grands soldes et tout ça.
C'est vraiment un rapport de rencontre. Les gens n'ont pas besoin de pousser la porte pour entrer. Ils ne sont pas pris dans un magasin, on va les chercher dans la rue.
Et on est ici jusqu'au 10 octobre, tous les vendredis, samedis et dimanches, et à partir de midi jusqu'à 19h les vendredis et samedis, et jusqu'à 18h le dimanche. C'est la contente de vous voir à l'Allée des bouquinistes.
Ici François Cornet. Dans quelques instants, je vous présente mon roman « La lenteur des ombres » paru chez Hurlante Éditrice.
Sur la librairie comme acte politique et culturel. L'auteur de La Petite Chartreuse écrit avec une nostalgie presque douloureuse « Qui saura, dans un avenir pas très lointain, ce que représentaient pour des gens comme moi les libraires et les librairies ?» Ce que signifiait dans une ville, grande ou petite, la présence de ces lieux où l'on pouvait entrer dans l'espoir d'une révélation. Qui se souviendra de la façon paisible dont on pénétrait dans ces antres à l'odeur de papier et d'encre? De cette façon de pencher la tête pour déchiffrer un titre nouveau, puis un autre, des noms d'auteurs familiers ou inconnus, afin de glaner des indices et des signes vivants sur les couvertures claires.
sans regretter d'avoir couru après l'envie. Il se tient debout sur le bord de la route en attendant un taxi pour la prochaine sortie. Il se dit prêt à embarquer, rien n'en soute, soute, soute. Il pèse toujours, jamais une économie, c'est mou, c'est mou. Il est retourne en tous sens, se demandant ce que la vie vaut. Et là où il y a des rives en semence, semence, semence. L'obsède pour qu'il refuse de se défaire du langage des poètes. Et finalement c'est souvent qu'il cède, qu'il cède, qu'il cède à des rêves en bourgeon ou à des sornettes, 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 sornettes. Même s'il deal avec ses démons, démons dans les plus belles forêts métaphoriques, personne ne lui en a fait un sermon, car il sait jongler avec la musique, musique, oh, musique, musique. Oh, oh, oh. Tiens debout sur le bord de la route en attendant un taxi pour la prochaine sortie. Je suis prêt à embarquer, rien n'en soute, soute, soute. Je pèse toujours, jamais je n'économise mes mots, je les retourne en tous sens en pensant à ce que la vie vaut. Et là-haut, il y a des rimes en semence, semence, semence. Pour que je refuse de me défaire du langage des poètes. Et finalement c'est souvent que je cède, que je cède, que je cède à des rêves en bourgeon ou à des sornettes, 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 sornettes. Même si je deal avec mes démons, démons dans les plus belles forêts métaphoriques, je continuerai de vous écrire des chansons pour que jamais ne s'arrête la musique, musique, musique.
Un autre chapitre de votre émission, La librairie Cochot, dans un instant.
Chaque matin à 8 heures pile, il ouvre sa petite librairie. Les mêmes livres sur les étagères, les mêmes rêves bien à l'abri. Le soleil traverse la vitre et caresse les vieux romans, comme un ami qui revient toujours au même moment. Une étudiante vient souvent chercher un poème oublié. Un vieil homme lit le journal près du radiateur usé. Les pages tournent doucement comme les saisons de la vie. Et le libraire connaît déjà les silences de chacun ici. Dans la rue bleue, rien ne presse, le temps marche tranquillement. Les livres et les promesses, des histoires qui vivent longtemps. Dans la rue bleue, rien ne change, et c'est peut-être ça le bonheur. Voir passer les jours ordinaires avec un peu de douceur. Parfois la pluie frappe les vitres, parfois l'été entre sans bruit, mais le libraire reste là, gardien des rêves et des nuits. Il dit souvent à ses clients, chaque livre cherche une main, comme si chaque destinée attendait simplement son chemin. Dans la rue bleue, rien ne presse, le temps marche tranquillement, entre les livres et les promesses, des histoires qui vivent longtemps. C'est peut-être ça le bonheur, voir passer les jours ordinaires avec un peu de douceur. Quand il ferme la porte le soir, les livres continuent de parler à ceux qui reviendront demain pour encore rêver.
Je me suis demandé quelle entrevue d'auteur je pouvais présenter pour cette toute première émission de la librairie Cochot. Et j'ai eu un flash. Le livre « La lenteur des ombres » de François Kearney, publié aux éditions Hurlante Éditrice. Pourquoi me direz-vous? Principalement parce que l'intrigue de ce roman se déroule dans le milieu de la littérature. On y suit Vic, un auteur qui a eu peu de succès avec son tout premier roman, qui se considère même comme un auteur poche, mais qui souhaite évidemment qu'une des maisons d'édition qu'il a approchées accepte de publier son second roman. Mais l'intérêt principal vient dans le fait que Vic est également libraire. En fait, il a pris la relève de son père qui avait une librairie. Alors voici un extrait de cette entrevue que m'a accordé François Kearney à propos de son roman « La lenteur des ombres ». Bonjour, François.
Bonjour.
François, évidemment, lorsqu'on se lance dans la lecture de ce livre, on se pose la question principale. À quel point Vic ressemble à l'auteur François?
Ouais, c'est une bonne question, mais je pense qu'il ressemble à plusieurs égards. Vic et moi, on a pas mal d'atomes crochus, là, ne serait-ce que parce qu'on a les mêmes passions là, pour la musique puis la littérature, mais... J'espère que ma santé mentale va un peu mieux que celle de mon père.
Oui, parce que, bon, Victor Longmouth se considère comme un auteur raté parce que son manuscrit est constamment refusé ou rejeté par les maisons d'édition. Est-ce que vous avez vécu le même sentiment par rapport à cette relation obligée avec les maisons d'édition?
Ben, je me suis quand même un peu inspiré de ce que j'ai vécu, mais heureusement, j'ai réussi à trouver une maison d'édition. Mais je me souviens, c'est peut-être là qu'a démarré un peu ma réflexion par rapport à tout ça. Là. Je me souviens que ça peut facilement être décourageant quand on envoie notre manuscrit puis qu'on essuie des refus. Puis là, on se demande est-ce que ça vaut la peine de cogner à d'autres portes. Puis à un moment donné, ben on finit par entendre que c'est normal, surtout pour le premier. Mais j'ai essayé de me rappeler un petit peu comment je me situais quand ça m'était arrivé. Donc, c'était pas très difficile pour moi là, d'avoir accès à ces pensées-là.
Bon, là, je me posais la question parce que d'entrée de jeu, en page 15, le personnage de Vic fait part d'une réponse d'une C. Leroux des éditions Alto. Et oui. je vais citer ici l'extrait. Un neuvième en moins de 6 mois. J'archive le courriel d'Alto dans le dossier verdict de ma boîte de réception dossier que j'aurais très bien pu baptiser. Ton manuscrit est nul et si j'étais toi, je me contenterais d'être libraire. Bon, là, vous citez Catherine Leroux des éditions Alto. J'imagine qu'elle a été prévenue.
Oui, en fait, j'avais reçu une réponse super sympathique de Mme Leroux. Parce que ça, c'est une partie qui est vraie. Là. J'avais soumis ce qui s'est finalement appelé Pénélope trouvera un titre, mais on pourrait appeler ça Belle. Je l'avais soumis à quelques maisons d'édition. Okay. À l'époque, je ne connaissais pas du tout le milieu littéraire en termes de maisons d'édition. Donc, c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. Fait que j'avais essayé un petit peu à tâtons là, dans, à quelques endroits. Puis oui, on lui a demandé si elle était d'accord d'utiliser. Ça a été comme une bonne réflexion pour nous avec mon éditrice quand on a publié ou quand on était tout près de publier ce roman-là, là, La lenteur des ombres. Il y avait beaucoup de noms d'auteurs québécois, de gens du milieu littéraire, ne serait-ce que des libraires ou des éditeurs. Puis on s'est demandé si on gardait les vrais noms. Puis après ça, on s'est dit qu'il n'y avait personne là-dedans, c'est qu'on allait humilier. Là, donc c'était plutôt même soit réaliste ou c'était des fois aussi pour faire des clins d'œil à des auteurs que mon personnage enviait. Donc on leur a demandé de la permission, puis tout le monde a accepté, heureusement.
Bon, lorsqu'on dit qu'on mélange la fiction et la réalité, le personnage de Vic a comme attachée de presse ou éditrice Pénélope. Bon, évidemment, oui. On connaît Pénélope Jolicoeur comme étant l'éditrice chez Hurlante Éditrice. Alors, quelle est la part du vrai et du faux là, dans ce roman, La lenteur des ombres?
C'est sûr qu'il y a plus de faux que de vrai. Ce qui est peut-être le plus près de moi, là, c'est ça. C'est un peu une partie de mon tempérament, une partie de mes passions. Mais la relation que j'ai avec mon éditrice peut ressembler à celle que j'ai transposée dans le livre. C'est-à-dire que je suis quand même très proche de Pénélope. Puis on a développé une relation d'éditeur-auteur, d'éditrice-auteur, mais aussi une relation d'amitié là, à travers le temps. Ça fait quand même 5 livres là, que je publie chez Hurlante Éditrice. Donc, on se connaît bien. Puis... fait qu'elle, c'est sûr qu'elle a embarqué là, d'être un personnage. J'étais déjà un titre dans mon roman précédent. Puis là, je trouvais ça drôle d'en faire un personnage un peu plus important. Mais c'est sûr que les événements qui sont présentés dans La lenteur des ombres, tout ça, ben c'est faux. Là. C'est vraiment de la fiction, mais alimenté par des vraies préoccupations, des vraies pensées, des fois, qui peuvent traverser mon esprit.
François Carnet, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc de ce roman La lenteur des ombres, publié chez Hurlante Éditrice, Hurlante Fiction. Il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées là, dans ce roman, mais j'encourage les gens à découvrir votre plume. Franchement, là, c'est très, très, très agréable, très drôle et très enrichissant. On en apprend beaucoup sur la réalité du monde de la littérature et de l'édition.
Ben merci, c'est un plaisir.
Sur le libraire comme figure essentielle. Dans Lettre à mon libraire, un auteur rend hommage à ses passeurs de livres. Et puis, il y a toi au milieu de cette lente agitation qui conseille, qui répond, qui oriente et qui met entre les mains des gens ces drôles de petits compagnons silencieux lesquels ne réclament rien, se tiennent toujours disponibles et ont été inventés pour arracher les larmes et faire battre les cœurs. Écoutons David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches de Sherbrooke.
Bien le bonjour, David Lessard-Gagnon.
Salut, René.
David, est-ce que tu es un fan, toi, du personnage de Lucky Luke?
Ben oui, dans la mesure où, depuis les temps les plus immémoriaux de mon existence, oui. Je lis des Lucky Luke. Okay. Est-ce que je les attends avec impatience? Non.
Okay.
Est-ce que je suis content de ce qui se passe avec Lucky Luke dans les dernières années? Oui. Parce que justement, en tant que héros de notre enfance, le fait de perdurer sur plusieurs décennies comme ça, c'est pas facile. Il y a eu des passages à vide. Je pense qu'il y a eu des périodes où les albums étaient moins intéressants.
Ouais.
Mais il y a eu, depuis quelques années, un renouveau chez Lucky Luke qui passe essentiellement par sortir du format de l'aventure standard. C'est ça, ouais. Donc, on invite des gens à s'approprier l'univers, à nous raconter des aventures sur un ton un peu différent, avec des éléments donc un peu différents, puis un graphisme aussi là, différent de ce qu'on connaît de la série standard, qui par ailleurs, elle, continue aussi.
Oui, c'est
y a
ça.
Il y a des nouveaux Lucky Luke qui sortent de temps en temps, quasiment un par année, je dirais. Mais là, on est ailleurs. On est donc dans cette série Hommage à Lucky Luke d'après Morris. Ça s'intitule Dakota 1880. C'est par Apollo et par Bruno. Bruno au dessin, Apollo au scénario. On fait un retour dans le temps. On est dans le préquel. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas.
Oui, parce que là, il n'y a ni Jolly Jumper, ni Rentre-en-Plan.
Non, il n'y a pas les Dalton. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas... Il est effectivement très bon au tir, mais sa réputation n'est pas encore globale, j'ai envie de dire.
OK, on ne sait pas encore s'il tire plus vite que son ombre.
Il tire très vite, mais est-ce qu'il tire plus vite que son ombre? Il y a des gens qui commencent à le dire.
D'accord.
Mais la forme est intéressante. Ben, d'ailleurs, c'est dans cet album-là qu'on apprend comment il est devenu Lucky.
Ah, OK.
Quelle est cette chance en question?
Oui.
Passage très intéressant, ben, oui. D'ailleurs. Et donc, c'est une bande dessinée qui nous raconte quelques aventures, différents épisodes, puis c'est vraiment présenté en épisodes. Donc, Lucky Luke est au Dakota en train d'assurer la sécurité d'une diligence qui doit se rendre à un endroit X. Et éventuellement, sur le chemin, il va rencontrer une femme, une grand-mère et son petit-fils, esclave affranchi maintenant, qui,
ah oui?
Il y avait une promesse là, par le président de l'époque que les esclaves affranchis pourraient réclamer un lopin de terre et deux moutons, là, quelque chose comme ça. Okay. Et cette grand-mère-là avance, parcourt le pays obstinément à la recherche d'un représentant de l'État qui voudra bien exécuter cette promesse et lui donner un lopin de terre avec deux moutons. Et donc, ils vont les croiser. Ils vont croiser Lucky Luke et le jeune homme. C'est lui, d'une certaine manière, qui nous raconte sa perception qu'il a, les épisodes qu'il a vus de Lucky Luke.
OK, OK, d'accord.
Comment Lucky Luke a ressorti du lot à quelques occasions dans ce chemin-là, dans ce trajet-là.
Ah, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant, puis ça met en jeu différentes choses. C'est une bande dessinée qui fait comme... qui est au goût du jour, j'ai envie de dire, puis qui fait très attention, et bien attention, je veux dire, de la bonne façon, de varier les personnages, puis de sortir... Lucky Luke de son hétéronormativité blanche, là, d'être le héros blanc qui vient sauver des gens puis qui domestique les autochtones, puis bon, tout ça. Fait que là, on sort un peu de ça en donnant la parole d'abord à ce jeune noir.
Ouais.
Il y a aussi un passage où ils abritent une jeune bourgeoise, on va dire, qui est en route vers... Elle correspond avec un soldat, puis après quelques lettres, ils ont décidé de se marier. Puis là, elle s'en va se marier et rencontrer son mari par la même occasion. Fait que, tu sais, ça nous parle des relations homme-femme à ce moment-là. Puis après ça, elle, cette jeune femme-là, elle a une opinion sur les sauvages, comme elle les appelle. Tu sais, elle est terrifiée de traverser le pays. Elle se dit, mon Dieu, ils sont assoiffés de sang. Puis là, ça donne l'occasion à Lucky Luke de nous donner un peu son opinion sur les premiers peuples. Puis c'est subtil, c'est intéressant, parce qu'en tant que héros, là, tu sais, Lucky Luke, il ne peut pas commencer à être raciste, là, on est d'accord. Là. Mais on fait attention de ne pas le sortir de son contexte d'époque non plus, puis de lui donner un discours là, de gauche actuelle. Il nous donne certains éléments qui nous font dire qu'il n'est vraiment pas d'accord avec la manière dont on traite à son époque, dont on traite les populations autochtones, puis qu'il ressent de l'empathie, puis qu'en même temps, ben il y a une espèce de, pour lui, de train de l'histoire qu'il dépasse à quelque part. Fait qu'il y a quelque chose de très pensé. T'sais. On a rarement vu, je pense, Lucky Luke exprimer des opinions autant que ça.
Ouais.
Donc, tout ça est très bien fait. Il y a une jeune fille aussi là, qui doit avoir 10-12 ans là, qui va participer à un concours d'adresse de tir pour fermer la trappe à un gros bonhomme, là, un gros dégueulasse. T'sais. Donc, voilà, moi, je trouve une justesse de ton super intéressante, justesse de rythme. Puis Bruno, ben, que Apollo, je ne connais pas, mais Bruno, j'ai lu certaines de ses bandes dessinées. Il y a une technique très intéressante avec des images très flashy, une physionomie des bonhommes qui est plutôt flashy. Ça a quelque chose du dessin animé de Hanna-Barbera, je trouve.
Okay.
T'sais, comme les pierres à feu, à quelque part. Il y a comme une espèce de trait... la ligne est claire, mais elle est épaisse. Donc, le trait est épais dans des couleurs super bien élaborées aussi. Des subtils clins d'œil. T'sais, chez Maurice, il y avait beaucoup... soudainement, on voit, mettons, justement, Rentre-en-Plan... mauve sur fond vert, là.
Oui.
Il y avait beaucoup de ça, qui est un trait que j'adore.
Oui.
Puis là, on est dans un ton différent, fait que ça a peut-être moins sa place, ces couleurs criardes-là. Mais il y a quand même des rappels de ça, avec justement des personnages qui sont d'une seule couleur au complet sur un fond de nuit, par exemple,
oui.
qui va être complètement en jaune. Il y a donc...
Donc l'esprit est là encore.
On est dans l'esprit vraiment d'une belle manière. Fait que exercice pour moi qui est très réussi.
Bon, moi, ce que j'aimais de Lucky Luke, c'était les traits d'humour. Est-ce qu'on les retrouve ou c'est plus sérieux, là?
C'est plus sérieux, puis tu sais, à la librairie, nous, Dakota 1880, les trucs de Mathieu Bonhomme, c'est dans la section adulte, bande dessinée adulte. Je pense que les enfants peuvent très bien avoir du plaisir, mais le ton est effectivement différent de la série standard. Oui, là, on est dans la BD qui cherche à amuser la jeunesse. Là.
Ouais.
Puis je pense que cet horizon d'attente-là, il reste. Là, on est dans une BD qui se veut... C'est ça, un autre ton de récit. L'humour n'est pas absent, mais c'est moins appuyé, je dirais.
D'accord. Donc, proposition fort intéressante qui a pour titre « Dakota 1880 » dans la série « Hommage à Lucky Luke » d'après Maurice, Apollo et Bruno. Et c'est chez Lucky Comics. Merci beaucoup, David Lézard-Gagnon.
Ça m'a fait grand plaisir.
Vous écoutez l'émission littéraire « La librairie Cochot ».
Nous retrouvons sur le site Internet de France TV un balado intitulé « Un jour, une question ». Et la question posée le 12 janvier 2022 était la suivante. C'est quoi le métier de libraire?
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui?
Un jour, une question. C'est quoi le métier de libraire? Le libraire est un commerçant qui vend des livres.
Hello.
Il travaille dans une librairie de quartier dont il est le patron ou l'employé. Mais il peut être aussi libraire dans une grande enseigne, un magasin de chaîne. Dans ces deux commerces, est-ce que le libraire effectue les mêmes tâches? Dans tous les cas, quand on est libraire, il faut être passionné de lecture. Car c'est lui qui va conseiller le client pour l'aider à choisir parmi les nombreuses nouveautés littéraires. Dans un grand magasin de livres, le libraire peut être spécialisé dans un domaine et renseigné dans un rayon précis, comme celui des livres jeunesse, des livres de voyage ou des BD, par exemple. En général, le libraire doit assurer la gestion des stocks, la commande des ouvrages, le retour des invendus. Il s'occupe également de réceptionner ses livraisons, étiqueter les exemplaires et les ranger dans ses rayonnages. Dans une petite librairie, il doit aussi veiller à la comptabilité de sa boutique. De plus, c'est le libraire qui fait régulièrement l'inventaire de ses livres pour maîtriser son stock ou qui met en avant des ouvrages en vitrine. Grâce aux revues professionnelles, aux émissions littéraires, il s'informe en permanence sur l'actualité du livre. Et sur son temps libre, bien sûr, il lit beaucoup pour pouvoir ensuite proposer ses coups de cœur aux clients. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.
On peut facilement se laisser inspirer par les recommandations de lecture du libraire François-Alexandre Bourbeau.
Il est basé à New Richmond. Il travaille à la librairie Libère et ça me fait toujours plaisir de l'avoir à l'émission. Bonjour François-Alexandre Bourbeau.
Bonjour René, toujours un plaisir partagé.
Eh bien, cette semaine, ce plaisir partagé, il va tourner autour d'un livre qui me semble bien particulier, Les 12 Borodines. Et ce qu'on peut lire, c'est « Jusqu'où iriez-vous pour changer le monde si l'on vous proposait de disparaître, d'abandonner ceux que vous aimez? Le feriez-vous? » On se transporte en 2054. Alors, parle-moi de ce livre qui réunit bon nombre d'auteurs, d'artistes.
Absolument. Un ovni littéraire qui, j'ai l'impression, est complètement passé sous le radar depuis sa parution en novembre dernier.
Ouais.
Il n'y a pas eu de critique dans la presse, il n'y a pas eu d'entrevue, c'est pas un succès de vente. Pourtant, le flou médiatique autour du livre colle parfaitement à son univers, puis c'est tellement involontaire. On se lance dans Les 12 Borodines, qui est un collectif dirigé par Antoine Tanguay, donc éditeur en chef chez Alto, mm-hmm. et Nicolas Dittner, qui est l'auteur phare de la maison d'édition. C'est un livre qui existe à part entière, mais également comme complément imprimé aux jeux vidéo littéraires Ressources inhumaines. Ça, c'est un thriller psychologique non linéaire qui se présente comme un roman interactif qui mélange machination industrielle, intrigue sociologique et impact décisionnel. Alors, la table est mise pour une expérience absolument déstabilisante, mais ô combien brillante. D'abord, si je peux parler de la forme, le livre est présenté en tant qu'album rigide. Pas plus grand, en fait, plus grand qu'un roman conventionnel, mais plus petit qu'une BD traditionnelle.
Okay.
Et au lieu d'un texte en prose, on découvre une présentation éclatée, divisée par sections bien distinctes, avec des coupures de journaux, des billets de blog, des dessins à main levée, des feuilles de notes, des extraits d'archives, des transcriptions d'interrogatoires, des fiches médicales, des avis de disparition et des correspondances officielles. Un peu comme si on ouvrait un classeur poussiéreux avec des dossiers confidentiels cachés dans les archives d'une institution sombre, labyrinthique. Ensuite, il y a le propos. Sur la quatrième de couverture, on lit « Je suis ce que j'étais. Je suis le blanc entre les lignes. Je suis un ange qui passe. Je suis ma déconnexion. Répète après moi, disparaissons. » Alors, en matière de synopsis, on demeure très nébuleux. Et au fil de la lecture, on découvre des sections bien distinctes dont la ligne directrice est intercalée lorsque chaque section est prise seule, mais traverse intrinsèquement chaque autre section plus on progresse dans la lecture. Puis le dénominateur commun entre les sections est la notion de disparition, d'effacement, de départ, que ce soit involontaire, subi, conscient ou nécessaire. Puis il faut aussi mentionner un tandem de protagonistes-antagonistes qui semblent traverser les âges, tous les deux à la tête d'empires intellectuels et techniques qui ont œuvré ensemble avant de se tendre des pièges, mais de garder certaines affinités aussi. Un tandem de personnages, mais même davantage, puisque la Borodine du titre semble se multiplier et brouiller les pistes. Puis précisons que chaque section, qui a un ton, un style, une forme et une présentation bien à elle, est écrite par quelqu'un de différent, qui mentionnait tout à l'heure.
Ouais.
Donc, Stian Vanney, Marie-André Gilles, Kiev Renaud, Hector Ruiz, Shawn Michaels, Charles Saint-Gallen, Dimitri Danskala et Neil Smith. Alors, c'est un véritable casse-tête qui peut sembler ne faire ni queue ni tête après ma barre, mais dont chaque pièce s'intègre méticuleusement aux autres en cours de lecture, qui démontre une maîtrise de la narration et réinvente le genre des livres dont on est le héros, qui commence un renouveau là, depuis peu. Alors, c'est sombre, c'est mystérieux, c'est déroutant, c'est beau, c'est même poétique parfois. Surtout, c'est un véritable tour de force. C'est sûr qu'en publiant un ouvrage comme ça, on ne s'entend pas à ce que ce soit un succès de vente, mais c'est la petite pépite qui va plaire à la personne qui cherche quelque chose de rare, de différent, qui sort absolument des sentiers battus. Alors, si vous le voyez sur le rayon de votre librairie, tentez le coup, ça vaut vraiment la chance. Laissez-vous aspirer dans ce livre-là qui est, ma foi, fort intriguant, mais très intéressant et très satisfaisant aussi quand on l'a terminé.
Ben, je suis vraiment intrigué. Les 12, Borodine, l'univers imaginé par Antoine Tanguay et Nicolas Dickner, et c'est publié aux éditions Alto. Merci beaucoup, François-Alexandre.
Merci bien, René.
Eh bien, voilà que se termine cette toute première édition de votre nouveau rendez-vous littéraire, la librairie Cochot. Je m'appelle René Cochot. J'ai la grande joie d'animer cette émission qui, rappelons-le, a pour but de mettre en valeur le travail des libraires et des librairies indépendantes. J'espère que le contenu vous a plu suffisamment pour que vous en fassiez une habitude d'écoute. D'ici là, je vous souhaite la plus belle des semaines et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre chapitre de la librairie Cochot.
Les mots sont les vêtements de l'émotion. Et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage? Les poètes se cachent pour écrire ces peines légendes. Regarde, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage. On a dormi à jeun dans la neige, on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre. En somme, les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre. Parfois il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. Versificateur notoire, chaque rime est une cascade. Dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fades. Dans ma vie, j'ai écrit plus de textes que ne reflète d'étoiles le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade. J'interrogeais le bon médium pour chasser le mauvais djinn. J'ai répondu à mine quand ma mère m'a dit bah le médium. J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens possédés par le jazz, pour ne pas avoir à jouer à cache-cache avec le diable. Le poète se cache pour écrire, c'est pas une légende, John Banzai, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie. C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité, tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au vert et l'oralité passe par nous. Le verbe est une clé indispensable, dehors on nous demande des mots de passe partout. Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende grand corps malade, regarde-nous. On a traversé des rivières de boue à la nage, on a dormi à jeun dans la neige, et on est encore debout. Dei san bit do janana, kobi do lam do fuladu intanim do. Dei san bit do janana. Taon kwa suka la bomware, ano yilo nombo la haju ni hende sare. Ano yeye dole ano toro hare, tananda donjada kalana no lare. Kona yeye jombongon tanin jango larta manin, sabu kumbada kalan koken badan tanin. Si handa dini makanyonya da joma jaudi, si awadani hayhong jahan kanyele royade hililabi. Sia hulani baba ma, sia yurma kinene ma. Tinna nona yejo kona duna ma upi waloba na thore ma. Deisan, sononga kunina, sukatori hada, sodi, jeya.